Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, amis auditeurs et auditrices, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette chronique un peu spéciale de la librairie des étudiants. Comme convenu lors de la dernière, nous ouvrons ensemble cet été cette série de podcasts, d'entretiens que je vous ai préparés tout au long de l'année avec des libraires. Je voulais leur donner un peu la parole et pourquoi pas aussi vous faire sortir un peu des sentiers battus de ce que je peux vous proposer en lecture. Avec eux, nous allons découvrir ensemble une multitude de livres qui, j'en suis sûr, peut-être vous donneront l'envie, tiens, de voyager, d'ouvrir une page et peut-être même de bousculer votre programme de lecture, si vous lisez en plus, cet été. Ainsi donc, nous poursuivons notre voyage littéraire avant la rentrée littéraire de septembre 2024, dont j'ai déjà hâte de vous parler. Pour commencer cette série d'entretiens informels avec des libraires, je vous propose de partir pas si loin de Grenoble. Nous allons aller au sud de Grenoble, dans la commune de Vif. Peut-être la connaissez-vous. C'est dans la grande rue principale que j'ai posé mes micros et quelques livres pour parler avec Marina. Marina, elle est la directrice de la librairie L'Esprit Vif qu'elle a reprise il y a quelques années. Et c'est dans cette librairie que nous avons donc réalisé ce petit entretien. Vous pouvez y retrouver de la littérature générale, littérature de voyage, des BD, des mangas et même de la littérature jeunesse. Une magnifique petite librairie indépendante tenue par Marina. Sans plus tarder, voici maintenant l'entretien réalisé avec Marina dans sa librairie à l'Esprit Vif, dans la commune de Vif, au sud de Grenoble. Bonjour Marina.
Bonjour Thomas.
Merci de m'accueillir dans votre librairie ici à Vif, l'Esprit Vif. Quelle est l'histoire de cette librairie ?
Alors, la librairie L'Esprit Vif existe depuis 2006. Elle a été créée par Muriel, qui l'a créée donc en 2006. Puis elle a été reprise en 2014 par Bernadette. Et c'est par Bernadette que je l'ai connue, puisque j'ai travaillé avec elle à plusieurs reprises pendant des saisons de Noël notamment. Et puis petit à petit, quand en 2021, elle a dit qu'elle se verrait bien faire alors ses droits à la retraite, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le moment que je fasse ça. Moi, j'allais avoir 40 ans et je me suis dit, bah allez, j'y vais, voilà. Donc, c'est une reconversion.
Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être libraire ?
J'ai 15 ans d'ancienneté dans la fonction publique, en tant que responsable d'un service culture auparavant, dans une collectivité territoriale qui est proche de celle de la librairie, mais qui n'est pas sur le même territoire. Et encore avant, j'étais directeur financier d'établissements scolaires et universitaires. Donc voilà, c'est une reconversion totale, mais en 2015, j'ai eu ma fille et j'ai eu envie de vraiment revenir à quelque chose qui comptait pour moi, c'est-à-dire me lever avec plaisir et en train le matin pour venir travailler, parce que je me suis dit que c'était quand même ça qui était important. On passe beaucoup de temps au travail et j'avais vraiment envie que voilà, faire quelque chose qui me plaisait toute la journée. Si je dis que la lecture, c'est une passion, bah, ça va être bateau, mais en même temps, c'est quand même comme ça qu'un peu tout a commencé. Et puis, bah, de venir travailler à Vif avec Bernadette au début, ça m'a permis de me rendre compte que c'était aussi un vrai métier qui pouvait être accessible. Je voyais les libraires comme des gens très loin de moi et au final, bah non, il y avait une librairie dans le village à côté du mien. Et puis voilà, de loin en loin, on s'est mis à travailler ensemble. Quand moi, j'étais à la culture dans le Trièves et je faisais venir des auteurs, et bah, ils venaient aussi chez elle. Quand elle faisait venir des auteurs à la librairie, ils venaient chez moi. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement, je dirais.
Est-ce qu'en devenant libraire, on lit beaucoup plus qu'avant d'être libraire ?
Alors ça, c'est le grand mythe. En devenant libraire, on se rend compte qu'en fait, on n'a plus une minute pour lire. Et que par contre, on est censé avoir tout lu ou en tout cas être capable de tout conseiller. L'Esprit Vif, c'est une librairie de 40 mètres carrés, généraliste, qui accueille donc tous les publics, gros et petits lecteurs, jeunes et moins jeunes, avec plein de rayons. Je vois derrière moi le rayon sociologie, il y a les mangas, les BD, les albums jeunesse, etc. Je suis pas spécialiste de tout ça, et pour autant, ce que j'aime, c'est transmettre mon plaisir de lire. Donc évidemment que ça va être plus simple pour moi de parler de ce que je lis, donc de la fiction, du roman, je vais dire adulte, du roman historique, du polar, etc. Je vais lire quelques essais de sociologie, ce genre de choses. Mais en devenant libraire, ça a été la première frustration. Me dire, ah oui, alors en fait, il y a tous ces livres qui sont là, j'ouvre les cartons, c'est Noël tous les jours, mais j'ai pas le temps. Donc voilà, et comme je dis toujours, au risque de me répéter, ce que je veux, c'est garder le plaisir de lire. Donc je ne me force jamais à rien lire. C'est-à-dire que quand je vais mettre un coup de cœur sur un livre, c'est que vraiment je l'ai lu. Vraiment, j'y ai passé un bon moment. Je l'ai apprécié. Et sinon, je vais en parler des chroniques, des choses qu'on va voir, une veille documentaire que je vais faire. Mais voilà, moi, quand je mets un coup de cœur dessus, c'est que vraiment je l'ai lu, moi.
Alors quels sont les coups de cœur récents que vous pourriez, par exemple, sur la rentrée littéraire d'hiver ou la rentrée 2023? Qu'est-ce que vous pourriez peut-être conseiller comme ça, à la volée?
Alors, la rentrée littéraire, il faut quand même savoir que c'est un moment qui nous noie, nous, libraires, de suggestions et d'envie de lecture. C'est peut-être le moment où la frustration est la plus énorme, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, la rentrée littéraire de septembre, on a eu un peu de vacances pour lire un petit peu. Donc, sur 3 semaines, on a peut-être la chance. Moi, l'année dernière, j'ai reçu 25 services presse, épreuves non corrigées à lire. Et j'ai péniblement réussi à en lire 10 pendant l'été, parce qu'il faut quand même socialiser avec sa famille, ses amis, tout ça. Se reposer, garder le plaisir de lire, toujours. La rentrée littéraire d'hiver, par contre, c'est une grosse blague. Parce qu'en fait, nous, libraires, on est épuisés par notre mois de décembre, qui était quand même très, 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 très intense. Et là, par contre, sur les 500 romans... les 400 et quelques romans de la rentrée littéraire d'hiver, c'est encore plus dur d'être capable d'en conseiller quelques-uns. J'ai été très bien conseillée avec Contrefeu d'Emmanuel Venet, que j'ai découvert chez Verdier, que j'ai découvert et qui a priori n'était pas forcément fait pour me plaire. J'ai ouvert le livre, je fais toujours comme ça, je lis la première phrase et en général, bah là j'aurais eu envie de le reposer. Je suis allée un peu plus loin et je me suis vraiment, vraiment, vraiment éclatée, vraiment. Je reviens sur des choses un peu plus anciennes, rentrée littéraire de l'été 2023. Fuck Up, c'est Arthur Nersnesian, je crois. Il est juste extraordinaire, l'histoire d'un écrivain en devenir, enfin... un gars un peu raté qui a écrit son premier bouquin mais qui a du mal à faire la suite. Ça se passe dans le New York des années 80, avant l'épidémie de sida. Donc on est vraiment dans le processus de création, d'écriture, etc. Les bonnes relations, les mauvaises relations pour être en vue, les gens qui vont écrire sur soi, les gens qui vont nous voir aux endroits où on va nous voir. Et puis ça parle aussi beaucoup d'homosexualité. C'était encore un délit à ce moment-là aux États-Unis. Et c'est vraiment, vraiment... Enfin, je me suis régalée lecture de l'été dernier. Je conseille aussi beaucoup à mes clients, comme je disais tout à l'heure, hein, les livres, quand je les conseille, c'est que je les ai lus souvent, ce que j'aime. Et là, il y en a un que... Bah, en fait, je ne me suis pas embêtée. J'ai mis dessus que si je devais en emmener un sur une île déserte, ce serait celui-là. Et quelquefois, j'ai comme une grande idée de Ken Kesey, qui est en plus publié dans une maison d'édition que j'adore, Monsieur Toussaint l'Ouverture, et une collection particulière, Les Grands Animaux, qui est en fait aussi belle à l'intérieur que belle à l'extérieur. L'objet est vraiment, vraiment très, très chouette. Et surtout, c'est des collections qui sont à des prix qui défient toute concurrence. Le tarif moyen d'un bouquin, c'est entre 12 et 14 euros dans cette collection pour un grand format d'excellente qualité, quand une sortie dans une grosse maison d'édition va être plutôt autour de 20, voire chez certaines 25 euros. Et là, ça commence à être un petit peu problématique quand on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Donc là, et quelquefois, j'ai comme une grande idée, c'est une grande fresque familiale dans l'état d'Oregon, dans les années 20-30. Et en fait, c'est la dureté de la nature, la dureté de la vie de famille, une famille très masculine où en fait les femmes ne tiennent pas le coup avec cette nature hallucinante et hallucinée. Et c'est vraiment, vraiment une lecture génialissime. C'est le dernier bouquin que j'ai lu dans lequel je suis baladée dans la tête du narrateur, et au bout de 15-20 pages, je lis et je me dis « Mais attends, t'étais pas dans la tête du petit là ?» Et j'arrive pas à retrouver le moment où je suis passée du grand-père au petit, de la voisine, etc. Donc c'est vraiment une lecture extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, peut-être d'un peu plus récent, ou des grands coups de cœur intemporels que vous auriez et qu'il faudrait arriver à défendre encore tous les jours, peut-être rassurer sur des grands noms, dire mais en fait non, c'est peut-être bien ça aussi, qu'il faudrait aller au-delà, ne serait-ce que de la couverture.
J'ai une tendresse particulière pour Lionel Shriver, Apprendre ou à laisser, qui est un petit bouquin qui aborde, un roman qui aborde la question de la mort et en prenant de l'âge, quand on se dit tiens, il va y avoir un moment où on va plus rien pouvoir faire comme on le ferait, on sera plus complètement autonome, et prendre la décision de se dire bah on s'en va maintenant, on arrête là, on appuie sur le bouton off. Je trouve que au moment où on se pose toutes ces questions sur le grand âge, la dépendance, etc., c'est un roman qui a le mérite, par une pirouette littéraire, d'aborder toutes les facettes, tous les champs des possibles, et de se poser vraiment cette question là de savoir comment est-ce qu'on a envie de finir. Donc il est à la fois assez humoristique quelque part, même si les sujets abordés sont pas évidents. Ça, c'est vraiment un roman que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, je repense à la rentrée littéraire 2023, Quand on eut mangé le dernier chien, Justine Niogré, qui est une aventure qui prend place, un roman d'aventure qui prend place début 20e, 1916, je crois, au moment d'une expédition de Ernest Shackleton en Antarctique. Et là, ensuite, deux personnages qui étaient sur le bateau d'Ernest Shackleton et qui finalement sont restés sur place, ou en tout cas un moment approchant, et où en fait trois hommes traversent l'Antarctique pour cartographier le sud de l'Antarctique. Trois hommes, 30 chiens, et le titre du bouquin, c'est « Quand on eut mangé le dernier chien ». Fatalement, ça ne s'est pas exactement passé comme ils pensaient que ça se passerait. Et l'Atlantique, ce n'est peut-être pas la prochaine destination vacances facile et reposante.
Vous avez entre vos mains une bande dessinée. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Oui, « Ladies with Guns », une bande dessinée que j'ai découvert au moment du tome 1 qui était sorti, si je me souviens bien, fin 2021, début 2022. Donc c'est un western en trois tomes pour le moment. Ils nous mettent tout de suite un petit autocollant fin de la première saison, donc on a très envie de savoir la suite. Et ce qui est très chouette, c'est que pour une fois, c'est un western où ce sont les femmes qui tiennent les rôles principaux et qui en font voir de toutes les couleurs aux hommes. Voilà, dans une Amérique début 20e, fin 19e, qui est plutôt masculine. Et donc, on a une esclave, on a une prostituée, on a une vieille femme unijambiste et une indienne qui, pour le coup, ont toutes les quatre... on a toutes les raisons de penser qu'elles ne sont pas hyper émancipées à cette période-là. Et en fait, il leur arrive plein d'aventures rocambolesques. C'est très chouette, ça tire dans tous les sens, ça canarde pas mal. Mais c'est un bon moment. Je ne dirais pas que c'est une BD féministe, mais c'est une chouette BD.
Et là, maintenant, on part du côté des rayons littérature jeunesse.
Ouais, pour un coup de cœur des coups de cœur, L'envol des princesses de Anna Benkemoun et Virginie Ezia, publié aux éditions Tot, qui est une petite maison d'édition avec laquelle je travaille beaucoup à Fontaine. C'est un album jeunesse qui parle autant aux petites filles qui sont très princesses qu'aux petites filles qui justement le sont pas du tout. C'est l'histoire d'une petite fille, d'une princesse qui décide un jour d'arrêter d'attendre le prince charmant et d'aller vivre sa vie. Et peut-être, on ne sait pas, de le trouver ou pas, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est la rencontre avec plein de princesses du monde entier qui sont comme elle et qui se disent après tout, mais pourquoi est-ce que j'attendrais que mon destin me tombe dessus ? Est-ce que je n'irais pas le saisir ? Et je trouve que c'est assez chouette dans le monde dans lequel on vit de montrer aux petites filles que, on peut s'émanciper, on peut vivre sa vie et on peut se faire plaisir. Voilà.
Mais merci beaucoup Marina.
Merci Thomas.
Je rappelle que vous êtes la directrice de la librairie L'Esprit Vif, que nous retrouverons donc à Vif, au sud de Grenoble. Et donc, on ne va pas hésiter, enfin j'espère, surtout pour nos auditeurs et auditrices, à vous rendre visite pour pouvoir avoir le plus important, je crois, de belles lectures. Merci Marina.
Merci, à bientôt.
Voilà pour ce petit entretien réalisé avec Marina, directrice de la librairie L'Esprit Vif, à Vif, au sud de Grenoble. Amis auditeurs et auditrices, merci d'avoir écouté ce premier podcast de la série de l'été de la librairie des étudiants. Je vous donne bien sûr rendez-vous dès mercredi prochain pour continuer notre voyage en librairie. Nous allons aller cette fois-ci du côté d'Annecy, près du lac, pour découvrir une toute petite librairie qui a énormément de charme. Bien entendu, l'entretien du jour avec Marina est à retrouver sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de profiter de vos vacances et surtout, le plus important comme d'habitude, d'avoir de belles lectures.